100% raisin, carnet de dégustation par temps confiné. Épisode 4, contre-temps. Conscrite parmi les confinés, j'ai la chance de bénéficier d'une dérogation. Un second petit bout de papier doublant l'attestation que j'ai soigneusement plié dans ma poche et qui me permet de passer en zone libre. Je peux alors m'aventurer au-delà du kilomètre réglementaire sans me soucier ni de la durée ni du moment, prendre mon vélo et franchir la Seine, ou bien encore marcher jusqu'à la Tour Eiffel, pousser jusqu'au pont Alexandre III, rejoindre les Invalides et m'assurer que son chapeau doré éclaire toujours le ciel de Paris. Au point du jour, je croise peu de monde, quelques promeneurs, un peu plus de coureurs, des coreligionnaires qui, comme moi, profitent de la fraîcheur du matin pour se rompre à leur exercice quotidien. Ce jour-là, il avait plu. Le ciel s'égouttait, délavé par des filets d'eau tombés depuis le matin. Le sol ruisselait encore, avec quelques flaques qui imposaient de naviguer le regard bas et de zigzaguer. J'aime écouter la pluie qui tombe, espérer un éclair, compter les secondes, puis guetter le grondement de l'orage et sursauter au coup du tonnerre. Les déchirures du ciel sont un spectacle toujours éblouissant, des rayures d'or sur fond noir, des couteaux argentés qui tombent sur la toile et la cisaille d'un coup. Un tableau saisissant qui chaque fois m'émerveille parce qu'à Paris, il est sans danger et inutile, le pavé n'ayant que faire de la pluie, insensible à toutes les larmes que le ciel peut verser. Lorsqu'il s'abat sur la vigne, l'orage est un désastre. Il l'éventre et elle reste moribonde. Mi-avril, l'orage a ravagé une partie du vignoble de Bordeaux, laissant derrière lui un vignoble par endroits exsangue qui ne portera plus aucun fruit avant la saison prochaine. Il n'y a rien à faire que constater les dégâts et prier pour que ce soit le dernier jusqu'aux vendanges. Cela me fait penser aux mots de Malagar, où Jean Mauriac se rappelle les orages de son enfance, véritable cataclysme qui le laissait hébété. Il y écrit ces mots. Et quand l'orage fut passé, dans ce silence de stupeur, dans cet égouttement des feuillages, dans ce bruit de larmes, nous nous penchions sur la vigne lapidée comme sur le corps d'une enfant martyre. Elle n'était pas tout à fait morte, mais les bêtes, qui grondaient encore derrière les collines, l'avaient cruellement mordue et elle perdait son sang par mille blessures. Dehors aujourd'hui, c'est plein soleil. Le printemps s'est levé avec force et déjà l'été lui marche sur les talons. Nous sommes à cet interstice de l'année, lorsque les saisons se croisent et se chevauchent et que l'on peut éprouver, dans la même journée, le froid d'un hiver qui résiste aux premières lueurs de l'aube et la chaleur déjà estivale d'un été en avance qui nous nargue, cette année avec une saveur plus particulière encore. Ce contraste entre le matin et l'après-midi est chaque fois une stupeur et un agacement, parce qu'il y a cet entre-deux indécis qui m'énerve prodigieusement, ce changement soudain qui ne prévient pas. Comme ce fichu virus qui va et vient d'une rive à l'autre du monde, d'une ville à une autre, d'un humain à un autre humain, parfois létal, parfois bénin, une fois pour toutes ou récidiviste, sans jamais se décider vraiment, changeant toujours. La nature revêt ses masques au printemps, décontenance le promeneur qui ne sait plus quel vêtement choisir, et le laisse là, trop couvert ou pas assez. J'ai envie d'attendre et ne rien faire. Laisser passer le temps, profiter du soleil, profiter de l'ombre et recommencer ainsi chaque jour à l'identique, sans qu'il n'y ait jamais aucune fin ni aucune lassitude. Me poser dans cet entre-deux, ne pas résister. Attendre. Qu'y a-t-il d'autre à faire que d'attendre sans effort? Quand le courant est trop fort, quand les éléments sont contre nous, il ne sert à rien de s'y opposer. On dit même qu'il ne faut pas se débattre, mais laisser passer la vague, prendre sa respiration jusqu'au retour au calme. En ouvrant un magazine au hasard, je tombe sur ce tableau de Hopper, station-service, peint en 1940. On y voit un homme à une station-essence, on ne sait pas exactement ce qu'il fait. On a du mal à distinguer son visage, ses gestes, sa silhouette. Le lieu est désert, éclairé, mais comme plongé dans une sorte de crépuscule, à moins que cela ne soit au petit matin, on ne sait pas exactement. Période de confinement peut-être. Une personne à la fois, distanciation sociale, etc., etc. Le tableau ne dit rien. Il donne juste à observer l'absence, le vide, le silence. Que s'est-il passé la minute avant? Et celle juste après le peintre? La foule a-t-elle envahi la station-service? Une horde de vacanciers exaltés a-t-elle déferlé, prenant d'assaut les trois pompes disponibles? On ne sait pas. Edward Hopper ne le dit pas. Il n'a pas envie de le dire, d'ailleurs. Il préfère nous laisser à notre imagination, au bord de son tableau dont il nous confie la suite de l'histoire. Pascal de Thurens, professeur de littérature à l'université de Strasbourg qui commande cette œuvre, écrit ces lignes qui se teintent aujourd'hui d'une épaisse vérité. Ce tableau et son sujet sont aussi indéchiffrables que notre temps. C'est que ce temps, le siècle dernier et le nôtre, est profondément un temps de latente. Les plus grands livres ne nous parlent que d'elle et nous ramènent à notre condition d'être qui attendent. Et quoi donc? Rien. La mort, la guerre, quelqu'un, une réponse. À nous qui attendons, termine l'auteur de l'article, de chercher laquelle, pour faire le plein de l'existence. Quelle réponse attendons-nous? Confinés bien au chaud, nous avons mille fois le temps de chercher de trouver cette réponse. Qu'est-ce que nous attendons? Et qu'est-ce que nous attendons pour agir, pour réagir, pour nous mettre en chemin et répondre à notre destin et notre vocation? Mon passe-temps favori, c'est laisser passer le temps, avoir du temps, prendre mon temps, perdre mon temps, vivre à contre-temps, disait François Sagan. Mais du temps pourquoi? Pourquoi faire? Pour révéler et approfondir, comme lorsque les grands vins, restés confinés en cave de longues années, se patinent et trouvent un autre chemin de vérité. Tous les vins ne supportent pas l'attente, certains, et de plus en plus, sont bus rapidement, parfois quelques mois seulement après leur récolte. D'ailleurs, on souffre de moins en moins d'attendre, il faut faire vite, aller vite, se presser, pour nous entendre dire ensuite que nous n'avons pas le temps. Exercice insoluble. Mais ce n'est pas de temps dont nous manquons, c'est de disponibilité et d'accueil. Les grands vins ont aussi besoin d'accueil et cela passe nécessairement par la contemplation. Sinon, comment percevoir leurs infinies nuances, apprécier leur évolution? Là, ces notes de truffe blanche, ici cette empreinte miellée, ou encore cette touche de cuir ou d'herbe sèche, ce bouquet de fleurs au crépuscule de leur jour, mais qui donnent encore, pour qui veut bien se pencher sur elles, les plus beaux parfums, parce que ce sont les derniers et les plus éphémères. Il n'y a pas que le vin qui requiert du temps. Le critique en demande tout autant. Lorsque j'ai débuté, on m'avait dit que pour acquérir un niveau d'expertise correct et devenir un bon critique, il fallait 10 ans d'apprentissage. Cela m'a semblé une éternité. Mais comment faire autrement? Il ne s'agit pas seulement de déguster des milliers de bouteilles ou de parcourir tous les vignobles du monde en mode tour opérateur. Encore faut-il pouvoir lier toutes les informations, prendre du recul et se constituer ses tables de loi, ces références personnelles qui feront que, pour chaque vin dégusté, une petite musique se jouera et dépliera tous les chapitres de ce livre personnel. Comment comprendre un vin sans avoir vécu plusieurs millésimes, tous aussi différents? Impossible de précipiter les choses et de vouloir condenser l'apprentissage. Comment comprendre le vin jeune si l'on n'a pas goûté de millésimes antérieurs? Et comment évaluer un vin vieux si on ne connaît pas les attributs de la jeunesse? Toujours l'attente, laisser le temps faire son œuvre. Polir les tanins, amplifier les saveurs, apporter de l'élan et du rythme, dévoiler la vérité première. Je me souviens d'une visite en Champagne, chez Bollinger. C'était il y a 10 ans, pour déguster les vins clairs, ces vins de l'année non encore effervescents qui doivent être assemblés pour former les différentes cuvées de la gamme. Un exercice indispensable pour comprendre la variété des crus de la Champagne et leur personnalité, et plonger ainsi dans le goût d'une maison, en l'occurrence celui de cette institution familiale installée à Haï, près d'Épernay, sans doute l'une des adresses les plus intimes et les plus passionnantes aux yeux des amateurs. Nous étions reçus ce jour-là par Jérôme Philippon en personne, le directeur général de l'époque. Nous goûtâmes chaque cru séparément, Cuilly, Ménil-sur-Auger, Verzenay, Haï, Tauxières, de petites notes de musique qui, plus tard, scanderaient la mélodie d'un spécial cuvée ou d'une grande année. Nous égrenions aussi chaque cépage, Meunier, Chardonnay, Pinot Noir, issus de fûts ou de cuves, nous imprégnant des terroirs, des styles, plus ou moins puissants, plus ou moins incisifs. Ces vins jeunes, très acides encore, donnaient déjà le ton de la vendange 2009, mature et solaire. Nous avions consacré la matinée à la dégustation et à la visite de la cave, passant en revue les méthodes de la maison et ses particularités. Les 5 km de galerie et ses rayonnages infinis de bouteilles sur latte, la tonnellerie maison, enfin les barriques pour les fermentations et les élevages, et surtout l'incroyable collection de magnums de vin de réserve, plus de 500 000 flacons destinés à enrichir et nuancer la palette du spécial cuvée et qui lui donne son goût si particulier, le style Bollinger. Arriva l'heure du déjeuner, accompagnée de merveilleuses bouteilles, dont en prélude un splendide grand année 2000. Sur le fromage, de vieux comté parfaitement affiné, était prévu un RD 1996. Innocemment, je glissais ma date de naissance, sans rien attendre. Jérôme Philippon me dit aussitôt « Ah, tu es de 76 ? Attends, je crois qu'il doit nous en rester encore une ou deux. » J'étais à la fois gênée, car je ne voulais rien exiger, et en même temps assez excitée à l'idée de revenir à ma naissance et n'opposer qu'une résistance polie de circonstances pour ne pas ruiner son élan. Il revint donc avec la bouteille « Champagne Bollinger RD 1976 Extra Brut ». RD pour récemment dégorgé et extra brut signifiant un champagne peu dosé. Jérôme déboucha la bouteille à température de cave, c'est-à-dire idéale car il ne faut pas servir les champagnes trop froids. Et je bus mon année. Il y avait encore une fine effervescence, des notes toastées, de noisettes fraîches, de mocha, une bouche en miroir au toucher moelleux et satiné, avec la sensation d'une évolution plus avancée que la mienne, du moins je voulais le croire, mais le bonheur intact de remonter ce fil du temps et de m'approprier une part de mon histoire qui m'avait nécessairement échappé. Je n'ai pas eu l'occasion de goûter beaucoup de 76, je crois même que c'est à peu près l'une des seules bouteilles que j'ai bues jusqu'à présent, car le millésime ne fut pas le plus mémorable, et la décennie est à cet égard plutôt calamiteuse, hormis l'année 1970. Désolé de ruiner là toutes les futures célébrations des quarantenaires de mon espèce. Aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir des amis plus jeunes que moi, nés dans de très bonnes années, et si je me désole parfois d'avoir à reconnaître que leur date de naissance relève plus d'une note par cœur ou d'un score de NBA que d'un millésime, elles me donnent au moins le prétexte de voir très bon dans d'heureuses circonstances. Au moment où je vous parle, je réalise que je ne m'accommode pas si mal de ce confinement, finalement, et que la présence réelle de mes amis ne me manque pas tant que cela. Je crois pourtant que je serai heureuse de les retrouver et d'ouvrir avec eux les bouteilles de nos souvenirs qui nous feront débattre des heures durant et qui nous ramèneront à ces moments que nous avons vécus ensemble et à ces liens que nous avons tissés. Des bouteilles en guise d'éclaireurs, comme des réponses, parce qu'elles auront pris le temps de nous attendre et nous le rendront au centuple.